Journal de Rhizome. Calendrier organique en 6. Archives papier conservées à la bibliothèque du Covadis. Innombrables sont les difficultés rencontrées par les clés. Cette fonction doit toujours être un choix, et ce choix doit être toujours réversible. La solitude. Il ne faut pas contraindre plus que nécessaire la vie personnelle des clés. S'il me paraît utile que l'on n'ait pas d'enfant réel lorsque l'on prend à sa charge toute une communauté, il me paraîtrait inutile, comme certains le préconisent, de se vouer au célibat et à l'abstinence sexuelle. Certes, la clé doit être prioritairement disponible pour son clan, et ne peut donc en aucun cas cumuler ses fonctions avec une passion amoureuse exclusive qui la couperait des autres. La clé ne doit pas non plus avoir de rapport sexuel avec les membres de son clan, pour deux raisons. D'abord parce qu'il ne peut y avoir d'égalité entre une clé et la personne qui lui est liée, et que les rapports sexuels sans égalité sont une chose socialement dangereuse. Ensuite, parce que cela susciterait des jalousies et des déséquilibres de toutes sortes au sein du clan. Ainsi, les clés doivent trouver leur équilibre sexuel en dehors de leur clan. La douleur. Tous les membres du clan verront leur douleur soulagée, à l'exception de la clé, dont les douleurs claniques possèdent un statut particulier. Par principe, ignorer ces douleurs claniques en les endormant par des drogues est interdit, car cela est contraire à l'éthique de l'organe. La douleur est le lien qui permet de veiller au bien-être de tous. Endormir la douleur, c'est couper ce lien. Au moment de la fin de vie d'une clé, ou dans les moments particuliers où sa santé personnelle est en péril, il sera cependant possible de lui administrer des calmants ponctuels, avec l'accord du Conseil des clés. Chapitre 13. Chasse à l'homme. Calendrier organique 589. Année terrestre 3416. Michel n'était plus, depuis des jours, l'enseigne de seconde classe qui avait débarqué sur l'organe quelques jours auparavant. Elle ne s'appelait plus Touré. Elle était un corps, jeté dans le monde, à peine un jeu. Elle absorbait la lumière, comme une feuille, s'accrochait comme une liane, tombait comme une pierre. Elle avalait ce qu'elle trouvait, des fourmis, des baies, des lézards, et quand elle n'avait rien, elle mâchait de l'écorce. Dans les creux, sa langue devenait troglodyte et fouillait pour les gouttes d'eau et de sève. Quelques minutes par jour, avant de s'endormir, et après s'être réveillée, elle se ressaisissait elle-même et parvenait à se raconter sa propre histoire. Elle suivait le chemin du nord-ouest, en direction de la ville, et devait bientôt tomber sur une rivière dont elle avait décidé de suivre le cours. La rivière, que la tradition cartographique notait en bleu, était plutôt verdâtre sur les photos satellites. Autour d'elle, il n'y avait que du vert, du brun, et une infinité de couleurs dont elle ne pouvait apprécier la merveilleuse diversité que maintenant, après des journées entières d'immersion. On disait que sur Terre, le peuple esquimau avait eu plus de 40 mots pour décrire le blanc. Il lui semblait qu'elle serait capable maintenant d'en inventer des centaines pour les couleurs de la forêt. Un mot pour chaque moment de la journée, un mot pour chaque stade de la vie végétale, un mot pour chaque espèce, un mot pour chaque texture. Tout était brun vert, et pourtant, il n'y avait pas deux taches de couleur identiques dans le vaste tableau mouvant qui se déroulait sous ses yeux. Michel n'était pas triste ou gaie. Elle était vivante. Ses fonctions vitales battaient à plein régime. Elle digérait, parfois douloureusement. Elle exsudait. Elle produisait de l'adrénaline. Elle transformait l'oxygène en énergie. Son sang circulait à toute vitesse. À travers l'épuisement de ses membres écorchés, des forces nouvelles renaissaient sans cesse de son corps jeune. Elle n'avait pas peur de mourir, car elle savait qu'elle avançait dans la bonne direction et qu'elle finirait par trouver des hommes. Ce qui se passerait après était un autre chapitre, une autre histoire à laquelle elle ne pouvait pas se permettre de penser. Penser n'était pas sa priorité, et elle passait la plupart de ses journées dans une sorte de transe. L'effort physique, la solitude et le silence, mais aussi l'immersion dans la beauté radicale et indifférente de la forêt occupait tout son esprit. Aussi, lorsqu'elle entendit le moteur d'un véhicule au-dessus de sa tête, elle mit plusieurs minutes à l'interpréter comme une menace. Et puis, comme si on lui avait jeté un seau d'eau froide sur le cerveau, elle revint à elle. Quelqu'un la recherchait à nouveau. Peut-être le major Rodriguez et Isla Brown, revenus avec des vivres pour suivre sa piste. Elle eut du mal à s'immobiliser, comme si son propre corps était un animal lancé au galop. Ce fut son réflexe premier, un réflexe archaïque, venu du fond de son ADN. Faire le mort. Henry Malkin était un homme patient, prévoyant, qui appliquait en toute chose la même méthode. Il avait organisé cette chasse à l'homme de la même façon qu'il avait organisé sa carrière, en procédant à une planification. Rien ne résistait à la planification, qui était capable de tout réduire, de tout produire, de tout briser, de tout construire. Malkin avait d'abord évalué son objectif et décidé qu'il était nécessaire d'appréhender Michel Touré. Il avait dû, comme souvent, batailler contre le capitaine Richards, enclin à l'indulgence envers cette jeune femme spontanée dont le sourire creusait de si charmantes fossettes. Richards avait évoqué la possibilité de « laisser tomber ». C'étaient les mots qu'il avait employés, « laisser tomber ». Pour un homme aussi sensible à la discipline militaire, ces mots avaient quelque chose de choquant. Dans l'armée, on ne laissait rien tomber. Ni les ennemis, ni les blessés, ni les objectifs. C'était une question de principe, et les principes étaient le nerf de l'existence. Une désertion impunie avait toutes les chances de saboter durablement, peut-être définitivement, la cohésion de l'équipage et son sens du service. Au contraire, une punition sévère ramènerait l'ordre. L'équipage se souderait contre les chefs, et cela était une excellente chose. La haine et la peur du chef faisaient partie de la vie militaire, et il valait mieux le savoir avant de postuler au poste de commandement. Malkin faisait partie de ces gens qui ne cherchent pas à se faire aimer. Sa popularité était un paramètre qu'il prenait très rarement en compte dans ses calculs. Paraître injuste était le cadet de ses soucis, tandis que paraître faible lui paraissait extrêmement dangereux. Mieux valait une injustice qu'un désordre, disait-on. Mais le lieutenant Malkin ne considérait même pas cela comme une réelle injustice. Cette jeune femme avait choisi, elle avait fichu le camp, en emportant les cartes et les vivres, elle avait déserté. Le code militaire ne la prendrait pas par surprise. Dans la vie, comme dans une partie de poker, chacun savait ce qu'il misait, ce qu'il risquait. On ne venait pas pleurer quand on avait perdu, et on payait sa dette, faussette ou pas. Malkin avait choisi Fabre et Wilson sur des critères qui lui étaient personnels. Solveig Fabre et Gus Wilson ne se distinguaient en rien, et c'était là leur qualité première. Ils n'avaient pas de faussette, presque personne ne connaissait leur nom dans l'équipage, ils ne gagnaient pas les tournois sportifs, ne faisaient rire personne avec leurs blagues et réalisaient leur travail d'une manière qui faisait écrire sur leur rapport RAS, rien n'a signalé. Pour le lieutenant Malkin, un équipage estampillé RAS était le meilleur possible. Ils n'avaient aucune inquiétude concernant leur potentielle désertion, leur manque de courage au moment d'appréhender Touré, ou les excès désagréables de leur compassion. Ils nourrissaient probablement beaucoup d'exaspération envers Touré, cette exaspération passive, muette, que les gens de l'ombre nourrissent envers ceux qui s'exposent un peu trop. Cette satisfaction mesquine quand il leur arrive malheur, cette façon de clore le dossier en disant « elle ne l'a pas volé ». Et c'était exactement ce sur quoi le lieutenant Malkin comptait, les rancœurs inavouables, les jalousies informulées, qui pousserait une partie de l'équipage à admettre la pendaison comme une nécessité du service, sans trop se poser de questions. Évidemment, il y aurait les réfractaires, les libres penseurs, les Michael Strauss, qui l'entendaient déjà plaider. Touré avait succombé à un vertige, elle avait perdu la tête et s'était ensuite contentée de survivre. Une nuit de folie ne pouvait remettre en question toute une existence d'obéissance active. Il suffirait de traiter cette argumentation pour ce qu'elle était. Un bourdonnement fatigant, mais sans conséquence. Touré serait pendu au final, et c'était tout ce qui comptait. Le véhicule avait survolé la zone à très haute altitude. Une forêt épaisse, sans limite, qui s'étendait sur des milliers de kilomètres carrés. Malkin ne pouvait s'empêcher d'admirer la quantité de matières premières qui s'offrait là. Cette forêt s'étendait jusqu'au lieu de peuplement. La rivière qui passait par la ville continuait son cours dans la forêt, et c'était de cette hauteur ce qui ressemblait le plus à une route. La rivière avait la largeur et le tracé sinueux d'un grand chemin. Elle trouait les arbres comme un coup de pinceau sur une toile verte. Il n'était pas douteux que Touré eût songé à la même chose. La rivière était objectivement la meilleure façon de regagner la ville. La végétation sur les berges était plus clairsemée. Si la rivière était poissonneuse, elle pourvoirait également la fugitive en nourriture et en eau douce. Il eût fallu être stupide, dépourvu de sens pratique ou privé de la moindre connaissance géographique pour ne pas aboutir à cette conclusion. Et ce n'était certes pas le cas de la cartographe Michel Touré. Après un premier vol de reconnaissance, le lieutenant Malkin avait ordonné à Wilson et à Fabre de faire des allers et retours permanents au-dessus de la rivière, à moyenne altitude, entre la ville et le point qui lui paraissait le plus proche de l'endroit où Touré avait déserté. Puis, il observa attentivement la photo satellite des bordures forestières de la ville. La rivière traversait un premier hameau, puis elle inondait les premiers faubourgs. De là, Touré pouvait rayonner un peu, mais cette zone devait être visitée en premier. Si les autochtones pouvaient coopérer, ce serait idéal, mais Malkin n'y comptait pas. Il fallait plutôt poser des caméras, et cela tombait bien car le lieutenant en avait emporté une centaine. Michel était restée immobile toute la journée, stuporeuse, paralysée. Le bruit du véhicule ne cessait jamais vraiment. Il s'éloignait et se rapprochait, changeait parfois d'altitude. Il lui semblait parfois que cette altitude était basse, plus basse que la cime des arbres, et cela lui faisait penser que le véhicule devait survoler le lit de la rivière et que cette dernière n'était pas loin. Elle mit longtemps à accepter cette idée, à l'incorporer. Depuis un nombre de jours qu'elle ne comptait plus, elle s'était enivrée de silence et de solitude et ne songeait qu'à rejoindre cette rivière afin de l'allonger ensuite. Ce bruit de véhicule venait tout détruire, le silence, la solitude et l'itinéraire. Michel essaya de se secouer l'esprit. Cela faisait de si longs jours qu'elle ne pensait plus avec des mots. Sa pensée était comme rouillée, ankylosée, contaminée de sensations physiques qui lui venaient à la place des mots. Si elle avait passé plusieurs jours enfermée, sans pouvoir bouger, il lui faudrait faire des exercices corporels avant de retrouver une mobilité normale. Là, elle ressentait le besoin de faire des exercices mentaux. Tant qu'elle ne serait pas en état de penser convenablement, elle devait continuer à faire le mort, et tant qu'elle faisait le mort, elle n'avait rien de mieux à faire que des exercices. Elle avait beaucoup pesté à l'aérospatiale quand on lui avait donné ses protocoles de récupération mentale. Elle s'était moquée de ses formateurs. À quoi ces exercices pouvaient-ils bien servir ? Ils étaient pourtant tout ce qu'elle avait sous la main, aujourd'hui, pour redémarrer son cerveau en panne. Il y avait d'abord les listes. Faire des listes de mots à haute voix, des couleurs, des objets, des personnes, des mouvements. Puis il y avait les paroles de chansons à retrouver, les tables de multiplication à réciter, les dates d'histoire. Insensiblement, le fait d'articuler les mots à haute voix lui fit retrouver l'immédiateté du langage. Au bout d'une petite heure, il lui semblait que son esprit était à peu près clair, et elle se mit à élaborer, toujours à haute voix, une ébauche d'argumentation. S'il surveille la rivière, ne faut-il pas passer par ailleurs ? Mais, d'après mes calculs, passer par la rivière faisait gagner plusieurs semaines. Combien de temps puis-je survivre ainsi si je passe par ailleurs ? N'est-il pas possible de marcher la nuit ? Certaines nuits sont très noires. Mais il y a deux lunes, la plupart des nuits sont claires. Marcher la nuit et rentrer à couvert de jour. Ils vont m'attendre à la sortie. Lorsque les premières habitations seront en vue, il faudra faire un détour. Un détour ? Michel prit la carte. Il y avait un hameau, puis la ville se densifiait en direction du nord-ouest. Mais si on prenait plein nord, on arrivait aussi à des habitations, un peu plus clairsemées et excentrées. On peut essayer là ? Oui, on peut essayer là. Michel se demanda qui était à la manœuvre. Cette information lui aurait été utile. Le major Rodriguez, par exemple, risquait, de par sa formation, d'aboutir aux mêmes conclusions qu'elle. Mais si c'était quelqu'un d'autre, mettons, un officier non scientifique, alors elle avait peut-être une chance. et ce fut ainsi que Michel, pendant plusieurs semaines, s'astreignit à vivre et à se déplacer la nuit. Une fois ou deux pendant les premiers jours, le véhicule circula aussi la nuit. Elle aperçut au loin ses lumières juste avant d'entendre son moteur et eut le temps de se cacher. Cela ne fit que lui faire perdre une nuit de marche. Les soldats qui étaient à bord avaient dû se rendre compte que cette battue de nuit n'était guère utile et l'abandonnèrent bientôt. Sa marche fut plus lente, plus périlleuse, et elle se fit quelques vilaines blessures. Mais elle avait à boire et il y avait beaucoup d'animaux faciles à attraper dans la rivière. Elle suça des choses gluantes dont elle ne savait même pas le nom. Elle vomit une fois ou deux. Mais il lui semblait que son corps était de plus en plus dur, de plus en plus sec, et avait de moins en moins besoin de nourriture. Par moments, elle levait la tête, juste pour regarder les reflets du clair de lune sur les pierres ruisselantes qui affleuraient, et qui lui faisaient penser, elle ne savait pourquoi, à des géants aux aguets sortant la tête de l'eau. Le bruit du courant, le clapotis des cascades, était une musique si douce qu'elle fermait les yeux parfois, pour la laisser remplir et purifier son âme. Dès que les premières lueurs de l'aube poignaient, elle s'esquivait à regret et s'enfonçait d'une centaine de mètres sous le couvert des arbres. Elle prenait en général la peine de grimper sur une grosse branche afin de s'y blottir, et là, entre ciel et terre, elle guettait le bruit du moteur qui ne tardait jamais à se faire entendre. Cette ténacité lui faisait peur, car derrière une telle détermination, elle voyait se dessiner le profil anguleux du lieutenant Malkin. Elle faillit se faire prendre à quelques heures de marche du premier hameau. Alors qu'elle débouchait d'un coude de la rivière, elle vit deux soldats en embuscade de chaque côté de la rivière. Elle avait eu beaucoup de chance, d'abord parce qu'elle n'avait pas eu le réflexe de crier, ensuite parce qu'ils ne l'avaient pas vue immédiatement, enfin parce qu'elle avait pu reculer sans faire de bruit et s'enfoncer dans la forêt. Son cœur battait à tout rompre. Elle n'en était pas sûre, mais il lui semblait qu'il y avait une fille parmi les deux soldats, peut-être Solveig. Cela la choqua, et elle mit du temps à recouvrer son calme. Quand ce fut fait, elle quitta les berges de la rivière et piqua droit au nord. Cela rallongerait sa marche de quelques jours, mais il n'y avait pas d'autre moyen. Le clan de l'orage était l'un des plus excentrés. C'était un clan restreint d'une cinquantaine de personnes. Contrairement aux autres clans, dont les membres habitaient souvent dans des villages différents avec une structure diasporique, le clan de l'orage était, par la volonté de sa clé, profondément soudé, à la fois géographiquement et dans ses mœurs. Orage était un homme déjà âgé, d'une grande douceur et d'une profonde bienveillance. Il n'élevait jamais la voix, et son clan vivait paisiblement, en harmonie avec la forêt dont il vivait. Orage portait mal son nom, disait-on en riant, car il ne se mettait jamais en colère. Un beau matin, deux femmes du clan, qui s'étaient enfoncées dans la forêt pour la cueillette des champignons, furent saisies de frayeur en apercevant, en haut d'une branche, un très gros animal qui s'agitait. La forêt ne contenait que des petites espèces, des radeaux, des écureuils, des oiseaux, des grenouilles et des lézards, et toutes sortes d'insectes. La chose qui se mouvait sur la branche était énorme, et, cherchant à repérer où se trouvaient la tête et la queue, elles mirent assez longtemps à reconnaître un vêtement synthétique et un visage humain dans l'aspect ensauvagé de Michel Touré. Celle-ci les regarda depuis les hauteurs où elle s'éveillait, et les deux femmes virent le visage étrange qui ne ressemblait à aucun visage de l'organe se fendre d'un grand sourire. « Je suis heureuse de vous voir, » dit Michel assez lentement. « J'ai besoin d'aide. » Les femmes se regardèrent. « D'où viens-tu ? » demanda la plus âgée. « De ce vaisseau, là-haut, la sonde. Que fais-tu ici ?»« Je me suis échappée car je ne voulais plus vivre dans le ciel. Je suis tombée amoureuse de l'organe. » Les deux femmes éclatèrent de rire. Cette formulation devait avoir un double sens ou une étrangeté quelconque car elles mirent quelque temps à retrouver leur sérieux. « Je suis recherchée par ceux de là-haut. » Des soldats de la sonde sont passés au village, confirma la jeune femme. Ils ont posé des petites machines un peu partout face à la forêt. Des caméras ? Demanda Michel. Elle entreprit de descendre pour les rejoindre, et les deux femmes l'aidèrent à se laisser tomber jusqu'en bas. Est-ce que tu dors toutes les nuits dans les arbres, comme un chat ? Michel sourit. Je ne savais pas que les chats dormaient dans les arbres, dit-elle. Dans les vaisseaux, quand ils sont autorisés, les chats dorment plutôt sur les couchettes. Pauvres chats, sont-ils heureux, enfermés dans ces bâtiments de métal ? Plus heureux que les humains, dit Michel, ils trouvent toujours l'occasion de paresser. Les femmes rirent encore, et la plus jeune sembla se souvenir de quelque chose. « Tu as faim ? Soif ?»«
Oui, » dit Michel.
Les deux femmes insistèrent pour qu'elle mangeât et bût l'intégralité de leurs provisions, ce qui lui fit un peu mal au ventre. Mais elles étaient naturelles, gentilles et volubiles, et Michel se sentait revivre auprès d'elles, comme un corps glacé qui retrouve peu à peu les sensations sous l'effet de la chaleur. La plus âgée s'appelait Fleur, et la plus jeune, Brise. « Nous ne pouvons pas décider de ce que nous allons faire, mais nous allons demander son avis à notre clé. »«
Votre clé ?»«
La clé de voûte du clan est celui qui soutient tous les autres. Notre clé est un vieil homme très sage, qui s'appelle Orage. Il sera de bons conseils. » Michel eut un sourire un peu mélancolique à l'idée que Brise et Fleur la quittent. Elle avait peur maintenant d'être replongée dans cette solitude qu'elle avait si bien supportée jusque-là, comme si l'exploit qu'elle avait accompli ne pouvait en aucun cas se renouveler. Elle ne dit absolument rien, mais se demanda l'instant d'après si elle avait exprimé son sentiment à haute voix, car il lui semblait que les deux femmes l'avaient entendue. « Est-ce que tu voudrais que l'une d'entre nous reste avec toi ?» demanda Fleur. « Je peux m'asseoir ici avec toi ? Brise marche plus vite. » La jeune fille adopta immédiatement son idée, et Michel sentit des larmes de reconnaissance couler de ses yeux. « Pas une fois, pas une seule fois !» Elle n'avait pleuré depuis qu'elle s'était relevée dans la forêt et qu'elle avait pris la fuite. Pas une fois la solitude, la faim, la douleur, l'incertitude, la peur ne l'avaient ébranlée. Mais cette compréhension immédiate, sans parole, cette solidarité désintéressée l'émouvait aux larmes. La jeune fille partit, et très naturellement Fleur prit Michel dans ses bras comme un enfant. Elle chantonna une mélodie étrange qui tournait sur trois ou quatre notes et qui eut pour vertu d'apaiser Michel en quelques minutes. Puis Fleur entreprit de regarder les blessures de Michel. Elle la déshabilla doucement, sans paraître porter aucun intérêt à sa nudité, mais seulement aux lésions, aux balafres, aux plaies ouvertes qui saignaient sur elle. Elle confectionna une sorte de baume à l'aide d'une huile qu'elle avait dans sa poche et d'un certain nombre de plantes qu'elle trouva et broya sur place. L'onguent, d'une chaleur mystérieuse, semblait désinfecter et assécher ses plaies.
« Je voudrais tant être acceptée par votre clan, » murmura Michel.
Orage est vieux, il n'a pas formé de nouveaux liens depuis longtemps. Mais il n'y a pas que le clan de l'Orage, il y a d'autres clans, un peu partout. » Michel hocha la tête. « Non, je suis tombée amoureuse du clan de l'Orage. » Le lieutenant Malkin savait une chose à propos de la méthode. On ne pouvait pas appliquer une méthode à moitié. Il fallait être systématique, exhaustif, et aller jusqu'au bout avec une attention toujours égale. Si on quadrillait un millier de cases à la recherche d'un indice, par exemple, il ne fallait pas en rater une ou se montrer distrait, pas une seule fois. Aussi, quand les caméras de surveillance furent posées, il se montra attentif à tout ce qui pouvait sortir de l'ordinaire dans ces villages primitifs. Tout rassemblement qui paraissait inopiné, toute visite, toute intrusion, tout arrêt même temporaire de la caméra. Il vit défiler devant sa centaine d'écrans des centaines de scènes de vie rurale. Ces vidéos auraient sans doute passionné quelqu'un comme Michael Strauss, mais Malkin, lui, s'en moquait éperdument. La vie de ces humains primitifs n'avait strictement aucun intérêt pour lui. Il ne cherchait pas à en comprendre le sens, les symboles ou les structures. Quand il était là de scruter ces images monotones et qu'il frottait ses yeux rougis, il songeait que des hommes avaient passé leur vie à faire ça et qu'ils jouissaient en plus d'un grand prestige social à leur époque. À l'heure où les humains étaient capables de naviguer dans le continuum des quatre dimensions, à quoi cela rimait-il de savoir comment ces pauvres hères coupaient leurs bouts de bois ou aiguisaient leurs couteaux ? S'il était parfaitement honnête avec lui-même, il estimait qu'il n'appartenait pas vraiment à la même espèce. L'Homo stellaris n'avait plus grand-chose à voir avec l'Homo sapiens. Ce qui retint son attention, sur la zone la plus éloignée de son quadrillage, fut une simple silhouette encapuchonnée qui sortait de la forêt en compagnie de deux femmes. Le vêtement jurait avec ceux que les autochtones portaient. Peut-être n'était-ce pas un vêtement de saison.
et surtout la peau de cette personne n'avait pas le même ton que celle des autres. Indubitablement, c'était un individu de couleur noire. Il fit un zoom et observa attentivement l'image, très fugitive, qui montrait les trois femmes se diriger vers l'intérieur du village. Il ne pouvait pas dire qu'il reconnaissait Touré dans cette silhouette famélique. Et il ne pouvait pas affirmer non plus que les autochtones de l'organe ne comptaient pas des individus de couleur noire, mais il y avait là suffisamment d'éléments pour se rendre sur place dès le lendemain. Avec le temps, Orage avait développé une qualité de lien très particulière. Il n'était pas seulement sensible à la souffrance de son clan, il ressentait également, physiquement, son bien-être. Cela prenait la forme de sensations brusques, de bouffées de joie, de grâces plus ou moins passagères. Par moments, il se sentait presque jeune, et il avait l'impression que ses propres douleurs en étaient comme effacées. Peut-être était-ce ce qui lui avait plu chez Michel, ce potentiel de vie et de joie, ce grand sourire qui perçait la douleur comme un rayon de soleil perce les nuages. Peut-être avait-il eu pitié de sa grande solitude. Toujours est-il que lorsqu'elle se présenta à lui et s'inclina presque jusqu'à terre pour lui demander de l'accepter dans son clan, il accepta. D'ordinaire, la cérémonie de l'aiguille qui consacre le passage à l'âge adulte se prépare longtemps à l'avance. Mais Orage, en peu de mots, comprit l'urgence et la menace de mort qui pesait sur Michel. Il ordonna qu'on procédât le jour même, et le lien fut créé sans délai. Michel choisit l'emplacement du tatouage sur le corps d'Orage, juste sous le cœur. « Je l'aiderai à battre », avait-elle promis. Orage, surpris, avait souri. Le vieillard s'était retiré ensuite, épuisé par la douleur, et le clan avait accueilli Michel par une fête improvisée. « Tiens, bois du vin. Il faut danser et nous amuser beaucoup pour aider Orage à supporter ses maux. » Quelque chose d'endormi depuis des années se réveillait lentement en Michel, tandis qu'elle se laissait porter par le groupe de danseurs et l'ivresse délicieuse. Ce n'était presque rien, à peine une sensation, comme le murmure d'une cascade en bruit de fond. Une présence presque maternelle à laquelle elle se sentait reliée, en deçà de l'espace, par un invisible cordon ombilical.